Vous se méfiez de nous-mêmes. Pas de M. Trump ou de M. Macron. Il faut se méfier de nous-mêmes, de notre péché. Et il faut toujours balayer devant sa propre porte quand on est chrétien. Et se remettre en question. Pas se culpabiliser, je l'ai dit. Pas se culpabiliser. Se remettre en question de manière à obéir de manière plus honnête, plus droite envers Dieu et envers les frères et les sœurs. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre des textes dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 23. Ce sont des sujets difficiles. Je m'attaque à des sujets difficiles et je dis des choses sur lesquelles je pourrais t'attaquer. Oui, je pourrais être attaqué, évidemment, je le sais bien, mais c'est plus facile de se taire quand on n'a pas l'unanimité dans quelque chose qu'on dit. Mais je ne veux pas me taire. Matthieu 23, vous avez toute une catégorie de remarques de Jésus. Ça commence comme ceci. Faites donc, au verset 3, faites donc ce qu'ils disent, observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs actions, leur façon d'être. Et rappelez-vous de quoi j'ai parlé l'autre jour. J'ai parlé de la personne qui était au bord du chemin, qui était abandonnée, qui était en train de mourir. Le prêtre, le lévite passait et ne s'arrêtait pas. Le samaritain, c'est quelqu'un qui est un bâtard dans la foi juive. Mais je vais dire à la limite, le plus grand des bâtards que les responsables religieux ont trouvé sur leur chemin, c'est Jésus. Ils n'ont pas supporté Jésus, mais pas du tout. Ils n'ont pas du tout supporté, les amis, ils ont voulu l'éliminer. C'était quelqu'un qui les provoquait de trop. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 6, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et évidemment, les amis, ils ne lui ont pas fait de cadeau. Ces gens-là ne lui ont pas fait de cadeau. Ils l'ont traité de Satan. Et quand ils l'ont mis à la croix, ils considéraient que c'était un envoyé de Satan pour détruire la religion de Moïse. Matthieu 10, verset 25, « S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, donc Satan, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?» Donc les chrétiens, les disciples, ensuite. Donc, ça c'est une entrée en matière. Retournons à Matthieu 23, verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Alors, il y a toute une série de critiques sur le comportement religieux, hypocrite, externe, sans aucun esprit de repentance, de conversion et d'amour. Et puis, il y a quelque chose qui est assez grave dans ce qui est dit par Jésus. Matthieu 23, verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. C'est-à-dire, allez-y, rajoutez-en, faites encore mieux. C'est-à-dire, crucifiez-moi. Qu'est-ce que c'était que la mesure des pères, c'est-à-dire des responsables religieux qui ont précédé? À l'époque d'Ésaïe, la tradition dit qu'il a été scié en morceaux, vivant, par les gens les juifs de son époque. Eh bien, regardons Ésaïe 28, verset 13. Qu'est-ce qu'Ésaïe a bien voulu dire? Ésaïe 28, verset 13. Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Je vais un peu plus loin. Verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Plus loin, verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, etc. Et vous avez juste au milieu du texte, au verset 16, C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc, ceux qui n'ont pas fui devant la terreur, je dirais, des religieux, eh bien, c'était des héros de la foi, c'était les apôtres. Hein. C'était les apôtres qui ont été héros de la foi. On voit très bien qu'après la persécution d'Étienne, Actes chapitre 7, beaucoup de chrétiens ont fui, sont partis, et heureusement pour eux. Parce que quand Titus est arrivé, après, il n'était plus là. Parce que Titus a tout rasé, tout tué. Mais dans Jérusalem, les apôtres sont restés assez longtemps, malgré les persécutions. Ils ont résisté par la foi. Et l'église de Jérusalem a été un exemple type de la foi engagée dans l'adversité, comme on la trouve dans le monde, de beaucoup d'endroits. Alors, cette église, c'est un modèle. Mais en face d'elle, Jésus a dit « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» C'est pourquoi, voici, verset 34, Matthieu, chapitre 23, verset 34, « Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. » Il s'agit des apôtres de Christ, des disciples. Vous tuerez, vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Donc on voit qu'il y a eu un acharnement sur les chrétiens au début du christianisme, et ça a duré de manière très sévère. Hein. Et quand on lit les voyages de Paul en Turquie, en Europe, etc., on voit que généralement, quand il sort d'une synagogue, un certain nombre se convertissent à Jésus, et d'autres sont farouchement des persécuteurs, hostiles, et ils ne font pas de cadeaux. Donc, Jésus avait bien dit, comblez donc la mesure de vos pères. Donc, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Mais le verset 35 pose question. Et c'est pour ça que je le prends. Parce que si vous le lisez, ou si d'autres le lisent et vous le disent, vous allez être le bec dans l'eau, comme on dit. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Vous imaginez la parole là ? Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste, donc Abel le fils avec Caïn, hein, le fils tué par Caïn, la première famille humaine, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc c'est quelqu'un qui a été assassiné dans le temple, dans le lieu saint. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est dur. Ces paroles-là sont dures. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela? Il y a de quoi devenir anti-juif quand on voit ça. Si on met ça dans les mains d'un wahhabite, d'un ennemi d'Israël, c'est clair. Alors là, il se rengorge, il est content. Et il va en rajouter jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut penser, les amis? D'abord, dans Matthieu 16, 18. Allons voir Matthieu 16, 18. Dans Matthieu 16, 18... Je te dis que tu es Pierre, donc c'est Pétros, c'est-à-dire objet de scandale, de trébuchement, petit caillou, et que sur cette pierre, Pétra, Jésus se désigne, c'est le rocher, c'est le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, des dizaines de fois, et que sur, je te dis que tu es Pierre, donc caillou, et que sur cette montagne, Pétra, c'est Christ, hein, c'est le nom de Christ, le rocher, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévonteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe? On voit ici que le séjour des morts n'a pas autorité sur ceux qui, ce sont des juifs, tous les premiers chrétiens, donnent leur vie à Christ. L'autorité de la mort n'existe pas. Celui qui n'est pas à Christ, l'autorité de la mort est sur lui et s'amplifie à cause de son iniquité, son acharnement à rester dans la loi, d'en rester dans le légalisme et la rigidité et le jugement. Et il fait, comme dit Esaïe, au chapitre 28, alliance, un pacte avec la mort, consciemment ou inconsciemment. Qu'on le veuille ou non, c'est un pacte. Par le légalisme, on a un pacte avec le monde des morts. Ici, par Christ, on a un pacte avec la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Donc, nous avons une alternative. Et il ne faut pas croire, dans Matthieu 25, que c'est une condamnation, ce texte de Jésus. C'est simplement un avertissement. C'est pour dire, faites attention. Faites attention, si vous continuez dans ce jeu-là, dans ce train-là, vous allez vous perdre gravement pour l'éternité. Mais si vous me suivez, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous aurez la bénédiction éternelle par mon sang versé à la croix. Alors, je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est clair, c'est un royaume où il y a la paix, la justice, la vie et la résurrection. Donc, il faut faire attention quand on a un verset comme celui-là, dans Matthieu 23, 35, « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, si vous restez dans votre chemin de péché. » C'est ça qu'il faut ajouter. Mais si vous repentez, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes justifié et vous n'êtes plus coupable de ce qui se passe sur la terre au niveau du sang, du légalisme qui tue, de la rigidité, psychorigidité religieuse qui tue. Et on le voit bien aujourd'hui que c'est bien à l'œuvre, n'est-ce pas? Alors, je voudrais bien que vous soyez en paix avec ce verset-là, parce que c'est trop difficile autrement. Au verset 36, je vous le dis, en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Pas tous. Il y a plein de juifs qui se sont convertis. Une majorité liée à l'institution, au régime social et business religieux, oui, n'ont pas voulu. Mais regardez au verset 38. Voici, votre maison sera laissée déserte, bien sûr, Rasibus, rasée avec Titus, ensuite avec Bar Kochba. Et verset 39, attention, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le texte est positif vis-à-vis d'Israël. Jésus revient en Israël, à Jérusalem, quand ce peuple, tout d'un coup, accueille le Messie. Et cela va arriver. Cela est déjà en cours. Il y a énormément de chrétiens parmi les Juifs. Donc, chers amis, ce verset-là, vous avez verset 39, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est dans le psaume 118. Alors, nous allons aller voir le psaume 118 pour voir s'il n'y a pas un complément d'information ou de révélation, si vous voulez. Quand c'est une information qui vient de Dieu, c'est une révélation. C'est pas comme si ça venait de TV5 ou je ne sais pas. Alors, psaume 118. C'est pour ça que j'aborde des sujets très très épineux qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont sur la sellette. Dans les conversations, on en vient vite, il y a des gens, même des gens d'origine chrétienne, à être anti-juifs, attention. Ou anti-arabe, hein. C'est pas mieux pour moi. Anti-musulman. Parce que le regard de Dieu sur les hommes n'est pas celui-là. C'est béni soit celui qui me dit, béni celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est ça qui compte. qu'on soit juif ou arabe, ou russe, ou chinois, ou français, ou belge. Psaume 118. Verset 19. « Ouvrez-moi les portes de la justice, donc la sainteté. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. » Jean chapitre 10, hein, verset 2 et verset 9. Hein, « Je suis la porte des brebis. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. » C'est ça les brebis. Hein, dans Jean chapitre 10, verset 2 et 9. « Ceux qui sont pardonnés, justifiés par le sang de Jésus. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, donc les responsables religieux, qu'on a dans Matthieu 23, ils sont décrits, est devenue la principale de l'angle, donc le Christ. Et cela, c'est évidemment, ça se retrouve aussi dans Matthieu 21, verset 42, dans Marc chapitre 12, verset 10. C'est pas qu'une fois que c'est dit. Alors, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Donc c'est un cadeau immérité, fait par Dieu, à Israël et aux nations, la venue de Christ, et la grâce de le reconnaître, c'est aussi un autre cadeau. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Vous voyez l'invocation, l'intercession, pour ce jour-là. David est dans l'intercession et l'adoration pour que ce jour soit un jour glorieux pour son peuple et pour bien d'autres. Donc l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui est une attitude d'intercession et d'adoration et de foi dans ce beau jour où Jésus sera accueilli à Jérusalem. Et regardez bien verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » L'Éternel est Dieu et il nous éclaire, etc. Vous avez donc, dans Luc 13, verset 35, aussi cette affirmation que Jésus reviendra. C'est fondamental de savoir que la fidélité de Dieu est toujours existante pour Israël et pour toutes les nations, que la miséricorde divine est la règle absolue de la Bible, et il ne faut pas tomber dans la confusion, dans le flou artistique. Et puis, quand on prend un verset comme ça, afin que tout sur vous, tout le sang innocent retombe sur vous, qui était répandu sur la terre, etc., on en arrive à devenir anti-juif. Hein. Mais on peut prendre deux autres versets pour dire qu'on est anti-arabe, hein, anti-musulman. Là n'est pas le but de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est la miséricorde par la justice divine infinie que Dieu a pour les hommes. Et par le sang et la personne de Jésus, crucifié à la croix, ressuscité, monté au ciel, qui reviendra, qui sera accueilli à Sion. C'est cela le message central de la Bible. Donc si le peuple, en tout cas une majorité dans les responsables juifs, à l'époque de Jésus et à l'époque des premiers apôtres, est très hostile, il est clair que cela ne dure pas. Ce n'est pas le dernier mot de l'histoire d'Israël. Lisons dans Matthieu 24, verset 9. « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc les chrétiens. « Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc il y a évidemment énormément de cafouillages dans l'histoire qui a suivi l'histoire de la chrétienté. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça c'est aujourd'hui, évidemment. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi ? Jusqu'à la fin ? Oui, jusqu'au moment où, chapitre 23, verset 39, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Comment peut-on dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » ? Eh bien, parce qu'il y a l'effet puissant de la parole de Dieu. malgré toute l'hostilité, les tribulations, et c'est au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'autorité de la parole de Dieu est en train de travailler les cœurs. Est-ce que vous avez vu, si vous êtes curieux et vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer, est-ce que vous avez vu des images sur Facebook, sur Internet, des assemblées chrétiennes en Algérie, malgré l'hostilité du gouvernement et d'une caste de gens obtus et bouchés? Il y a énormément de chrétiens en Algérie. Et comment se font-ils? On accuse que c'est, de l'extérieur en tout cas, que ça vient par des évangélistes extérieurs, des pasteurs, des gens qui sont venus. Non, c'est passé par la radio, la télévision, par Internet. Et il y a des milliers d'églises, de convertis, des centaines d'églises. La même chose en Iran, la même chose partout, en Syrie, en Irak, au Liban, la même chose partout, les amis. Internet, c'est le pire et la meilleure des choses. C'est l'outil, pour le moment, pour Dieu, pour se faire connaître Jésus à tout le monde. Faire connaître. Mais le diable aussi cherche à se faire connaître. Voilà, c'est l'enjeu de Internet et de tout ce qui passe par les masses médias. Mais toujours est-il qu'il y en a qui saisissent la parole de Dieu, l'annonce de Jésus, comme leur salut. Et cela, quand toutes les nations auront entendu, c'est le 24-14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et ce verset-là, bien sûr, il faut le relier à Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, donc cette réalité divine qui va se révéler peu à peu dans la foi, afin que vous ne vous regardiez point comme ça, c'est-à-dire antisémite. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. C'est dans Isaïe. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, nous avons ici dans ce texte-là, de Matthieu, de Romains 11, 25 à 28, une affirmation qui se relie à Matthieu 24, verset 14, et qui nous permet de dire que il n'y a pas de malédiction sur le peuple d'Israël par Jésus. Il y a un avertissement de rester, un avertissement solennel, que s'ils restent dans le légalisme et la religiosité rituelle, ils se mettent eux-mêmes sous la malédiction, eux-mêmes, et sous la haine des peuples. Il faut comprendre ça. J'espère que vous comprenez. Jésus n'a pas de haine sur Israël. Il n'a jamais eu de haine sur personne, Jésus. Alors, c'est le Fils de Dieu. En lui, tout est amour. Dieu est amour. Il s'est révélé en Christ. Alors, si nous retournons dans Matthieu 23, verset 37, nous voyons que c'est Jérusalem qui fait l'enjeu, qui est l'enjeu, qui est la capitale du monde, qui est central dans l'économie du salut, dans ce qui va arriver. Donc, dans les jours, les mois, les années qui passent, regardez ce qui se passe à propos d'Israël. Non pas seulement à partir des moyens d'information français ou belges. Moi, j'ai remarqué souvent que la télévision néerlandaise, j'ai appris le néerlandais, c'est toujours intéressant, malgré tout, et la télévision italienne parlait souvent du Moyen-Orient et d'une autre manière d'Israël et des pays de Moyen-Orient. Mais il y a aussi le moyen de se renseigner autrement. Il y a des moyens de se renseigner. Si vous en avez besoin, vous faites signe par internet, vous m'envoyez un message et je vous renseignerai. Il y a des livres. Monsieur Liebi, un juif chrétien qui fait des conférences, de nombreuses conférences, a fait des livres sur la prophétie. Il y a des revues qui existent. Et tout cela, je peux vous les renseigner. Pour être au courant de l'aspect positif de l'effet de la parole de Dieu aujourd'hui sur Israël et les pays environnants. Alors, c'est central. Regardons dans Malachie, qui précède de peu, Malachie précède de peu Matthieu. Malachie, chapitre 3, verset 1. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. L'argent, c'est la façon d'obéir. C'est le symbole qui représente la façon d'appliquer la parole de Dieu, la façon d'obéir à Dieu. Il purifiera, parce qu'on ne sait pas vraiment obéir actuellement. En tout cas, ça se trouve rarement. Les gens qui cherchent vraiment à obéir à la parole de Dieu, c'est devenu rare. Il fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Nous y voilà, là, Israël. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. L'or, l'adoration de Dieu. La relation, la communion avec Dieu. Et l'argent, l'obéissance. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, sainteté. Hein? Alors, vous pouvez lire, bien sûr, le chapitre 3 de Malachie. Je ne peux pas m'attarder dans tout. Je lis simplement le verset 12. « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. » Nous aurons tous besoin de délices. Et les vraies délices nous attendent. Les vraies délices nous attendent. Chapitre 4 de Malachie. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Donc, la paille y brûle. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Donc, il y aura une terre sans aucune trace de la méchanceté et de la haine. Ça sera fini. Du péché, tout compte fait, de l'iniquité. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, c'est Christ. Pensez au cantique de Zacharie, dans Luc, chapitre 2, je pense. Et la guérison sera sous vos ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Moi, j'ai été fils de paysan et je devais garder avec oncle et tante quand on vidait les écuries. Les hivers étaient très rudes. Il faisait moins 20, moins 25. Et puis après, ça c'est moins 15, moins 10. Enfin, maintenant c'est du 0, du moins 2, moins 3. C'est de la rigolade à côté de ce que j'ai connu. Mais tout le bétail était, pour ne pas tomber malade, était dans les étables. Et au printemps, quand c'était fini, que l'herbe avait repoussé, et on ouvrait les portes, on les lâchait, on se mettait sur la route, on s'éloignait assez bien, parce qu'ils fonçaient comme des idiots, parce qu'ils avaient été dans l'obscurité, dans l'étable. Et quand ils sortaient dehors, ils étaient à la lumière du soleil, ils étaient aveuglés, ils ne savaient pas où aller. Ils fonçaient direct sur nous, n'importe où, dans un mur, dans une haie. Et il fallait les encadrer, si possible, pour qu'ils n'aillent pas se blesser dans les murs, dans les haies, dans les clôtures. Tous les ans, nous avions droit à ce rite. Et comme j'étais seul garçon, ben, il fallait que je l'assume. Gare, hein, quand les bêtes fonçaient sur nous. Donc ici, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étape, c'est-à-dire libérés. Libérés de l'obscurité. Libéré du temps glacial du péché et ouvert à la liberté, au bon pâturage, à la bonne saison. Ok ? Comprenez mieux ? Alors, ce Jésus de Nazareth, dont nous parlons si souvent, nous allons maintenant dans Zacharie. Zacharie, chapitre 14, verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, donc toutes les nations qui sont venues attaquer Jérusalem un peu avant, fin des tribulations. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Rappelez-vous ce que les anges ont dit aux apôtres dans Actes, chapitre 1, je pense, que Jésus reviendrait au même endroit qu'il était parti. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, une moitié vers le midi, etc. Et quand Jésus arrive, il se dirige vers la porte de l'Orient, qui est fermée actuellement, qu'aucun n'ose ouvrir, ni musulman, ni juif, ni chrétien, et qui est en face du Saint des Saints, de l'endroit du Saint des Saints, où Christ sera en gloire. Cette porte sera ouverte un jour. En attendant, personne ne l'ose ouvrir. C'est du sérieux. Et quand Christ sera là, eh bien, je vous lis dans Zacharie 14, 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » La fête des tabernacles, c'est la fête que les Juifs, au mois d'octobre, Soukhot, célèbrent tous les ans pour faire le rappel, la mémoire du passage dans le désert pendant 43 ans. Cette fête des tabernacles, rappelez-vous, intriguait très fortement les apôtres, puisque dans Matthieu 17, lorsque Jésus est transfiguré et en compagnie de Élie et de Moïse, Pierre, Jacques et Jean sont là, Pierre ose dire « Est-ce que nous pourrions planter une tente pour chacun de vous ?» Pourquoi ? Parce que Pierre croyait que le temps du royaume était arrivé, que ça en était fini de cette histoire humaine sordide, et que la fête des tabernacles avait commencé avec Christ en gloire. Donc, ce que Pierre savait, c'est que ça existerait. Mais il était trop pressé. C'est encore à venir. Peut-être pour bientôt, maintenant. Je le pense. Je le pense, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors, nous allons, bien sûr, aller plus loin. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Est-ce que cette sentence touche seulement Israël? La sentence. Regardons la première aux Thessaloniciens, chapitre 1. Chapitre 1, versets 1 à 10. Je me suis peut-être trompé. Chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qui ont eu la foi en Christ, ceux d'Israël, comme tous les autres des nations, et qui sont décédés. Mais ils dorment, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'attente. Leur âme attend que leur corps se relève pour réintégrer le corps. » Ézéchiel 37, hein. et pour être en face de Christ. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il est clair que Jésus, quand il dit « Je reviendrai », et ceux qui me diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ce sont des personnes d'Israël. Mais il y aura aussi des autres qui seront là, de toutes les nations. On l'a vu dans Malachie et Zacharie. Et qui diront cela ? Ceux-là, oui, parce qu'ils sont vivants, ils sont sur pied, et qu'ils croient. Mais il y en a des autres qui ressuscitent et qui les précèdent. Regardez. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, dans la foi, en Christ. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc ceux qui disent « Béni soit celui qui vient au nom de l'Adonai, du Seigneur », nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc il y a un programme divin. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les nuées, les airs, quand vous lisez Matthieu 17, c'était le cas de Pierre, Jacques et Jean, Moïse, Élie et Jésus. C'était le cas. C'était un moment exceptionnel, glorieux, de grande communion divine. Ça préfigurait ce qui nous attend, nous. Et regardez bien, c'est phénoménal. Une immense manifestation telle que la transfiguration où il n'était que quelques-uns, six. Pour tous ceux qui ont la foi à Jérusalem. C'est ainsi que vous avez dans Ésaïe 25 un texte à mettre en relation avec ceci. Ésaïe 25. Verset 6 et suivant, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, une grande super noce de Cana. Comprenez-vous pourquoi Jésus a transformé 600 litres d'eau en vin? Parce qu'il n'y avait pas seulement ceux qui étaient à Cana, il y a tous ceux-là ici, des nations. Il a montré sa gloire, comme dit Jean, dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Quel bon vin, les amis. Il n'y a pas besoin d'en boire beaucoup pour être heureux. C'est pas une tamponne que Dieu prépare. C'est un délice. C'est pour les fins gourmets. Nous serons tous des œnologues de premier choix. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fit disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Donc vous voyez pour Israël, Matthieu 23, je vous dis qu'il ne faut pas prendre certains versets pour une malédiction sur Israël. Or, ça a été le cas dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe et dans le mouvement wahhabite. Chez les témoins de Jéhovah, on met Israël de côté, et les mormons, et bien d'autres. En ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. C'est dans ce climat-là qu'ils oseront dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, vous avez vu, la foi. Réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. J'ai fait une connexion entre plusieurs textes pour vous montrer la globalité, la fermeté de la promesse, et de ne pas s'attacher à un verset qui risque de vous ébranler s'il n'est pas mis dans un contexte biblique, d'une théologie biblique, du retour de Jésus. Pour moi, c'était très important d'aborder cela, parce que il est inutile de lire la Bible sans une bonne théologie biblique. Il faut avoir, et c'est pour ça qu'il est bon que dans vos églises, vous ayez des pasteurs qui aiment la parole, qui se forment, qui étudient. Vous avez besoin d'étudier aussi. Il y a des cours bibliques dans les instituts. Est-il trop tard, à 60 ans, à 55 ans, à 70 ans, de faire l'institut biblique? Pas du tout. Nous avons connu un homme de 77 ans et une femme de 66 ans de Strasbourg qui étudiait et qui se trouvait avec nos filles. Il n'y a pas d'âge pour la connaissance divine de la parole de Dieu. Connaissance selon l'Esprit Saint. Il est toujours temps de s'abreuver à la bonne doctrine et d'avoir le bon dépôt en nous pour pouvoir le partager. Même si vous avez 60 ans, 70 ans, il vous reste peut-être 10, 15 ans pour propager la bonne doctrine, la bonne nouvelle. Et pourquoi ne pas s'engager? Si vous avez 40 ans et que vous usez votre santé dans le boulot, vous avez 25 ans, 15 ans, vous programmez votre vie pour l'user dans ce système de ce monde où on va vous faire trimer, bosser. Vous aurez un salaire à la fin du mois. Quand vous l'aurez, vous aurez déjà toutes les factures. Vous aurez déjà dépensé d'avance. Si vous en reste, vous allez vous étourdir avec quelques vacances, du ski, une plage, une bonne TV, un super écran, les super smartphones de dernier cri. Chers amis, se nourrir de la parole de Dieu, se fonder dans la parole de Dieu, c'est un grand bonheur. Et le répandre. Dieu vous appelle tous à vous former pour répandre la parole de Dieu dans cet Occident mort spirituellement. Deuxième aux Thessaloniciens. Deuxième aux Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 8. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il n'y a pas besoin de se venger, hein, etc. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Donc c'est les béatitudes. Hein. Heureux quand vous serez affligés, persécutés, etc. Vous voyez, c'est le même texte, c'est le même sens. De vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Tiens, tiens, tiens. Toujours béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À la fin de Matthieu 23. Tout est à relier. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Comme à Sodome et Gomorre, une flamme de feu qui brûle tout. Vous savez, on a retrouvé les ruines de Sodome et Gomorre en 2020. Et c'est un météorite qui a explosé. Parce que les corps sont vitrifiés, les murs sont vitrifiés. Il faut 4000 degrés. Oh, il n'y a pas d'incendie qui arrive à cela. 850 degrés. Et si c'était des volcans, 1500, 1800, ce n'est pas ça. Il y a eu des météorites qui ont explosé en Sibérie. Et ça a été étudié. Il faut 4000 degrés. Donc un météorite qui tombe et qui explose à 100 mètres du sol, ou à 200 mètres, il irradie une chaleur de 4000 degrés. C'est pour ça que la femme de Lot est devenue une statue de sel. Eh bien, cette année, on a trouvé. On a trouvé cette ville. L'archéologie confirme la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas eu besoin d'archéologie pour dire ce qu'elle devait dire, puisque c'est Dieu qui parle. Alors, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous voyez ce qui attend. C'est plus une destruction par l'eau, comme Noé, c'est par le feu. Les astres qui explosent. Mais pour nous, ceux qui ont la foi, ça ne nous concerne pas. Tout comme Lot a échappé. Tout comme Noé a échappé à l'eau, Lot a échappé au feu. Etc. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Donc vous voyez ici, il y a un contraste, il y a deux tableaux, un diptyque. Ceux qui sont avec Jésus sont glorifiés. Et Jésus est glorifié à travers les saints, donc à travers les croyants, admiré dans tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui sont en Christ vont se regarder et vont admirer l'œuvre de Christ qui a été terminée en chacun de nous. Pour le moment, quand on se rend compte entre chrétiens, il faut apprendre à s'admirer et à s'aimer. Il faut apprendre à estimer l'œuvre du Saint-Esprit dans chaque chrétien. Mais parfois, on se dit, on aurait trop tendance à regarder la paille dans l'œil de l'autre. On va se dire, oulala, oulala. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est regarder ce qui sera terminé en Christ. Tous les chrétiens que vous voyez, à vous-même, en commençant devant la glace, au matin ou au soir, tout sera terminé en Christ. Vous deviendrez semblable à Jésus, l'a dit Jean dans sa première épître, chapitre 3. Lorsque nous le verrons face à face, nous lui deviendrons semblables. Donc, c'est clair ici, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Donc il faut tous les jours être jugé digne par Dieu de notre vocation. Quand nous prions, quand nous sommes dans notre chambre, dans la voiture, dans la nature, il faut avoir une relation avec le Seigneur et vous dire, Seigneur, est-ce que je suis digne de toi aujourd'hui? Est-ce que j'ai répondu à ton attente, à tes désirs? Est-ce que, Seigneur, je veux être à ton écoute? Tu es mon interlocuteur favori. C'est à toi que je dois rendre compte. Est-ce que suis-je digne de toi? C'est quelque chose qui nous fait avancer. Parce que Jésus veut nous donner sa dignité. Sa dignité, parce que nous, par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Notre dignité est bien basse, souvent. Regardez, qu'il vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Donc vous voyez, c'est Christ qui agit dans les chrétiens. La puissance accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. C'est le perfectionnement. C'est la sanctification. Et l'œuvre de votre foi, ça passe par la foi, mais même la foi, l'opération de la foi en nous, est un cadeau, un privilège spirituel venu de Dieu. Pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, chers amis, si vous pesez ce verset 12, 2 aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12, faites-en un sujet de prière et de méditation. Il y a trop de va-et-vient et d'affairisme chez les chrétiens. Il faut prendre du temps tout seul. Il faut arrêter les téléphones et la télévision. Il ne faut pas trop manger. Quand on mange de trop, l'esprit s'englue. Il s'appesantit au point qu'il ne fonctionne plus. Il faut trouver auprès de Dieu une relation paisible. Et il faut surveiller le fonctionnement de notre corps, de notre digestion, pour que nous ne soyons pas soumis au travail de la digestion. Je vais lire un verset, mais ça peut être soumis à la télévision, soumis aux boissons, soumis au travail, etc. C'est l'amour du monde, ça. Je pense que je vais trouver ce verset, qui est très important. Je ne le trouve pas comme ça, parce que je ne l'ai pas préparé. Prenez garde que votre foi ne s'appesantisse pas. Chers amis, je vais peut-être dans Matthieu, je vais aller voir pour vous rendre service, mais je n'avais pas prévu de le dire. Mais la foi chrétienne mérite la méditation. Je vous ai conseillé ce verset de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 12. C'est notre vocation. Et pour cela, chers amis, il faut, pour pouvoir méditer, avoir une vie sobre. On ne peut pas être toujours en train de végéter, de subir un corps qui s'appesantisse et qui nous fasse du mal et qui nous empêche d'être quelqu'un de spirituel. Nous devons dépasser le stade animal, le stade végétal, et nous devons être spirituels. Notre esprit doit fonctionner. Je n'ai pas retrouvé le verset, vous le trouverez. J'ai confiance en vous. Nous avons besoin de foi dans tout ce que Dieu a promis. Il n'y a pas de malédiction sur Israël. Il y a quelque chose qui se passe pour ceux qui refusent Christ. Oui, ils se mettent dans la malédiction humaine. Ça, c'est différent. Et pour les peuples, les autres peuples, c'est la même chose. Mettez-vous sous la bénédiction du sang de Christ, aujourd'hui. Et bon dimanche pour ceux qui veulent écouter le culte à 10h15 et à lundi à 18h. Lundi, j'aurai digéré et préparé les versets de mon ami Matthieu Dezil de Limoges. Je vais mettre à ça à la sauce de faits vécus et de textes bibliques. Je vous promets que ce sera un bon repas spirituel. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.